Super Fail, Guillaume Erner.
Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer.
Super Fail.
Le diesel est une catastrophe, mais alors attention, une catastrophe française, parce que le diesel a d'abord été une passion française. Autrement dit, une création gouvernementale. Nos dirigeants ont créé un monstre aujourd'hui, hein, tout le monde s'en aperçoit, mais hier, le diesel, c'était ça.
Avec la Citroën CX Diesel, il faut dès maintenant revoir toutes les conceptions que nous avions en matière d'automobile. En effet, imaginez un peu que vous n'ayez que 85 francs en poche pour aller de Paris à Bordeaux et de Bordeaux à Paris, soit 1079 km. Eh bien, ces 85 francs représentent 68 litres de gasoil. 68 litres, c'est la capacité du réservoir de la CX Diesel. Si vous n'aimez pas la route, prenez donc l'autoroute et à 120 de moyenne, vous pourrez couvrir les 809 km qui séparent Paris de Marseille. À première vue, c'est assez surprenant. Ça l'est beaucoup moins lorsqu'on sait que la CX est mue par un moteur diesel et que ce diesel est enrobé d'une carrosserie particulièrement profilée. Ceci explique cela. Avec ses 9 chevaux fiscaux, la CX est la plus rapide des diesels existants, 152 km/h en vitesse de pointe. Une vitesse très longue à obtenir car les rapports intermédiaires sont très courts. 15 km/h en première, 40 en deuxième et un peu plus de 80 en troisième.
12 euros le plein, Eric Lézer. La CX était une voiture économique à l'époque. C'est l'emblème, l'un des emblèmes de la passion française pour le diesel. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un reportage de France 3 sur la CX Diesel. Un reportage du 22 décembre 1975. Et depuis lors, il a coulé beaucoup d'essence sous les ponts. Vous avez écrit Automobile France d'en haut contre France d'en bas. Et l'un des emblèmes, justement, de cette France d'en haut contre la France d'en bas, c'est le diesel. Le diesel, une passion, une création française. Expliquez-nous, dans quel contexte la France est tombée amoureuse du diesel ?
Alors, la France est tombée amoureuse du diesel sous l'impulsion donc des pouvoirs publics, c'est ce que vous venez de dire, à la fin des années 70, au début des années 80. Période de promotion du diesel et où on vantait les avantages d'économie, etc. Pourquoi ? En fait, c'est tout simplement lié, ça paraît un peu étrange, mais au programme d'électricité nucléaire français. Crise et choc pétrolier, 73-75. La décision est prise de réduire la dépendance de la France vis-à-vis du pétrole importé. Et donc, de lancer un programme de centrales nucléaires et de multiplier les centrales qui produisent de l'électricité à partir du nucléaire. Jusque-là, bon nombre de nos centrales produisaient de l'électricité avec du fuel, du carburant diesel, du mazout, comme on dit. Donc, au bout de quelques années, quand le programme nucléaire a commencé à fonctionner, nos pétroliers et nos raffineurs se sont retrouvés avec des stocks de diesel et de mazout dont ils ne savaient pas quoi faire. C'est devenu d'autant plus important que, par ailleurs, les particuliers ont été aussi incités à changer de mode de chauffage et donc à abandonner leurs chaudières au fioul, au mazout, et à passer au chauffage électrique, ce qui, soit dit en passant, est aussi une aberration. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, qu'est-ce qu'ont trouvé les pouvoirs publics pour écouler les surplus de mazout et de fioul ? Ils ont poussé les constructeurs automobiles français à développer leurs moteurs diesel, les voitures avec des moteurs diesel. Et par ailleurs, ils ont puissamment incité, avec des avantages fiscaux sur le carburant diesel, les particuliers à acheter des voitures diesel. Et on se rend compte de ça parfaitement avec la publicité que vous venez de passer, parce que le coût avec du carburant de diesel d'un voyage, si j'ai bien compris, de Paris à Bordeaux, est extrêmement faible. Et donc, la passion française pour le diesel est née comme cela. Les constructeurs français ont emboîté le pas, notamment Peugeot, qui est devenu un des leaders mondiaux.
Alors, comment ça s'est passé ? Parce que, alors, on se souvient quand même que la CX, c'est relativement récent. Mais avant, il y avait déjà eu l'ancêtre.
Première vraie voiture diesel française, c'est une 403. Donc, vous voyez, c'était déjà Peugeot et c'était à la fin des années 50. Alors, le diesel pour les voitures, Rudolf Diesel est allemand. C'est allemand d'abord, c'est Mercedes, mais les Français l'ont assez rapidement adopté, mais adopté pour les utilitaires.
Pourquoi ? Quelles étaient justement les caractéristiques du moteur diesel ? Qu'est-ce qui fait qu'au début, on s'est dit qu'on n'allait pas équiper les voitures personnelles de moteurs diesel, Eric Lézer ?
Alors, je ne suis pas un expert et un technicien, mais le moteur diesel, en tout cas à l'origine, était un moteur relativement rustique, peu puissant, mais qui avait l'avantage de consommer moins aussi. C'est-à-dire que le carburant diesel, on va dire un litre du diesel, concentre plus d'énergie qu'un litre d'essence. Pour autant, les technologies sur les moteurs faisaient que les moteurs n'étaient pas très puissants, pas très nerveux. L'agrément des moteurs diesel, c'était très bruyant. On voyait quand même des fumées noires. Donc, c'était pas un moteur très raffiné, on va dire ça comme ça. Alors, les technologies ont fait des progrès. Le moteur est devenu de plus en plus raffiné. Il est même devenu tellement technologiquement avancé que il y a des tas de problèmes d'électronique liés au diesel. Mais ça, c'est autre chose. Ce qui est intéressant.
C'est quand même important parce que, à l'époque, on disait, voilà, un moteur diesel, c'est extrêmement solide. Alors, il y avait effectivement un moteur solide parce qu'il tournait très lentement, beaucoup plus lentement qu'un moteur essence. Et en fait, pour faire en sorte qu'un moteur diesel soit aussi performant, ou en tout cas performant, on a été obligé de rajouter toute une série de technologies qui l'ont rendu complètement fragile, ce moteur.
Exactement, il tournait plus lentement, il était, on va dire, moins développé, ce qui veut dire qu'il était extrêmement robuste et que longtemps, effectivement, les ventes de diesel, notamment Peugeot, s'était fait une grande réputation, y compris en Afrique notamment, sur ces moteurs diesel, se sont vendus sur leur robustesse. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le succès a dépassé toutes les attentes. Alors d'abord, les incitations fiscales, c'est-à-dire que les taxes sur le carburant diesel étaient quand même beaucoup plus faibles que les taxes sur le carburant essence, et ça a eu des succès incroyables. Il faut quand même se rendre compte qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en 2008... 77% des véhicules, des automobiles neufs qui étaient vendus en France fonctionnaient avec un carburant diesel. En 2008, c'est pas si loin que ça. Il y a 10 ans. Ce qui est totalement aberrant, notamment pour les villes. C'est-à-dire, autant le
Pourquoi
moteur diesel. Mais parce que vous avez pas besoin, d'un moteur qui consomme, un peu moins en ville, puisque vous passez votre vie à l'allumer et à l'éteindre. Vous faites des petits trajets. Et sur les petits trajets, le moteur diesel met du temps à chauffer. Donc, il n'est pas très performant. Il s'encrasse, ce qui veut dire que vous avez des problèmes techniques qui arrivent extrêmement vite. Et puis, on commençait à le savoir à l'époque. Un moteur diesel, a fortiori quand il est froid, donc quand vous faites des petits parcours, émet beaucoup de particules fines. Et les particules fines, c'est un vrai problème pour la santé.
On le savait, vous pensez ?
Oui, on le savait, puisqu'il y avait un certain nombre. Alors, c'était pas une information aussi largement diffusée, aussi publique qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas eu le Dieselgate, c'est-à-dire qu'on s'était pas rendu compte, on voulait pas voir que les constructeurs automobiles trichaient sur la réalité des émissions et des pollutions de leurs moteurs diesel. Mais il y avait un certain nombre de pays où, tout simplement, les diesels étaient interdits pour les véhicules particuliers. Le Japon n'a jamais autorisé les véhicules diesel pour les particuliers, pour des raisons de pollution. Et par ailleurs, aux États-Unis, alors c'est une autre histoire, mais aux États-Unis, le carburant diesel pour les voitures particulières est extrêmement peu répandu. Donc c'est un phénomène
européen. Pourquoi une
autre
histoire ? Qu'est-ce qui a fait qu'aux États-Unis, puisque c'est vrai que la France a beaucoup d'automobiles dieselisées, un parc dieselisé, comme on dit.
Les deux tiers, presque les deux tiers du parc sont dieselisés, ce qui est le gros problème aujourd'hui.
Ce qui est rigolo, sachant qu'en 2024, d'après ce que j'ai lu, les diesels seraient interdits de circulation en Île-de-France. Donc on imagine le superfell que ça va créer. Pourquoi aux États-Unis, par exemple, les véhicules diesel sont vraiment l'exception, quoi ?
Alors en fait, aux États-Unis, les véhicules diesel sont réservés aux camions. Et les véhicules essence aux particuliers. Et les constructeurs automobiles américains n'ont jamais travaillé sur les moteurs diesel, donc ils sont promus par tous les moyens, et c'est un lobby très puissant, les moteurs essence, et on va dire les consommateurs américains n'ont jamais été incités, les particuliers en tout cas, à acheter du diesel. Ça se trouve dans les gros pick-up, ça se trouve dans les camions. Alors les Européens ont vendu quelques voitures diesel, mais avec le Dieselgate, si vous voulez, ils n'en vendent plus une.
Est-ce que le diesel a un intérêt intrinsèque ? Est-ce que, par exemple, il coûte moins cher à produire que l'essence ?
Non, le moteur diesel, surtout les derniers, ne coûte pas moins cher à produire.
Non, le carburant.
Le carburant. Non, mais naturellement, alors ça dépend des technologies, ça dépend des types de pétrole brut que les raffineurs utilisent. Mais naturellement, quand ils raffinent, ils ont une différente gamme de produits dans les raffineries. Et naturellement, ils produisent, quand ils raffinent un baril de pétrole, ils produisent donc des carburants qui sont très légers, qui vont du kérosène à l'essence, et ils produisent aussi du mazout et ils produisent du bitume. Donc naturellement, quand vous raffinez un baril de pétrole, vous avez du diesel et vous avez du mazout, alors en plus ou moins grande quantité, mais vous en avez.
Et aujourd'hui, donc, on se retrouve face à un parc qui est dieselisé, comme je l'ai dit, mais alors, la situation n'est plus du tout comparable à celle qu'elle était avant, puisque entre-temps, on a tout d'abord acquis la certitude que le diesel était un carburant qui procurait des polluants absolument nombreux et terriblement dangereux pour la santé humaine. Et puis il y a eu le Dieselgate, Éric Lézère, là aussi sur lequel il faut revenir.
Alors, ce qui est intéressant, donc Dieselgate, c'est des chercheurs américains, des universitaires américains, qui se sont rendus compte que dans certaines conditions, les moteurs diesel des véhicules Volkswagen, ou d'un certain nombre de véhicules du groupe Volkswagen, et un certain nombre de moteurs diesel du groupe Volkswagen, se mettaient à fonctionner différemment de la normale. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait, on va dire, un logiciel dans ces moteurs qui faisait que quand ils étaient soumis à des tests, qui sont les tests réglementaires d'émissions et de pollution, ils fonctionnaient de manière dégradée, en termes de performance, ce qui fait qu'ils polluaient moins. Donc c'était volontairement quelque chose qui était intégré dans les puces électroniques du véhicule et qui permettait de tricher les tests d'émission.
C'est vachement malin, ça veut dire que le véhicule comprenait qu'il était en train de se faire tester.
Exactement, exactement, parce qu'il était soumis à une procédure classique de test. Alors, Volkswagen a été pris la main dans le sac, ça lui a coûté très cher et ça a ruiné la réputation du diesel à l'échelle mondiale.
Mais ça n'a pas ruiné Volkswagen, hein ?
Ça n'a pas ruiné Volkswagen. Ça leur a coûté quand même très cher. Ça leur coûte des dizaines de milliards de dollars. Alors, c'était le plus grand constructeur au monde. Ils sont maintenant deuxième ou troisième. Mais c'était une puissance. Ça reste une puissance. Mais ça les a quand même touchés de plein fouet. Ils ont dû changer des dirigeants. Le scandale n'est pas terminé. Il y a encore des procédures judiciaires. Donc, ça n'a quand même pas été une très bonne nouvelle pour eux. Ça a été une très mauvaise nouvelle pour le diesel à l'échelle mondiale. Surtout qu'en plus, secret de Polichinelle, même si les autres constructeurs ne trichent pas forcément.
En fait, j'ai l'impression que tous ont triché quasiment.
Les émissions dites testées ou officielles ou publiques ne correspondent pas à la réalité, et parfois dans des proportions considérables, et ça concerne l'ensemble des moteurs diesel. Donc les moteurs diesel polluent bien plus que ce qu'on imaginait. Maintenant, le problème, c'est qu'on est en train de passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, après avoir adoré le diesel, on est en train de le brûler, de le détruire et de le vouer aux gémonies, de considérer qu'il représente tous les maux. C'est pas vrai non plus.
Pourquoi vous dites ça ?
Parce que il faut garder des proportions en tête. Indépendamment des questions sociales et politiques que pose le fait que on voudrait rayer le diesel de la carte
c'est impossible. Aujourd'hui, c'est en tout cas la volonté politique. On vous dit, en 2024, vous n'aurez plus le droit de rouler avec un véhicule diesel.
Voilà, c'est le discours qui se veut écologiste et écologique. On est dans ce qu'on dit vulgairement le greenwashing, c'est-à-dire qu'on habille de vert un certain nombre de décisions. Pour en revenir sur le fond du sujet, on va parler des particules fines, donc qui sont le principal problème avec les oxydes d'azote. Mais on va rester sur les particules fines, c'est un sujet plus évident. On va pas parler du CO2, parce que le diesel dans le CO2, c'est-à-dire pour le réchauffement climatique, c'est pas de la pollution, mais c'est du réchauffement, présente des avantages par rapport à l'essence. Pour en revenir aux particules fines, selon l'INSEE Air Paris, l'automobile, c'est environ 35% des particules fines émises en Île-de-France, qui se trouvent en Île-de-France, et c'est 17% dans le reste du pays. Ça veut dire que aujourd'hui, le diesel bouc émissaire ne représente, on parle à l'échelle de la France, que 17% des particules fines. Et encore, il y a aussi l'essence, etc. Il faut ajouter aussi le fait que tous les véhicules, même électriques, émettent des particules fines. Environ un peu plus de 40%, entre 40 et 50% des particules fines qui sont, on va dire, émises par un véhicule qui roule, sont liées à l'abrasion des pneus et aux freins. C'est-à-dire pas du tout à la motorisation. Donc ça veut dire que la campagne anti-diesel qui est menée vise à réduire, bien sûr, c'est logique, mais 10% des particules fines qui se trouvent dans l'atmosphère, dans toute la France. Donc on prend un marteau pilon pour écraser une mouche. Donc ça c'est une première chose. Et après, on en revient, il y a le problème social et le problème politique. C'est-à-dire que on stigmatise et on pressure, notamment en augmentant la fiscalité, la France périphérique, c'est-à-dire celle des petites villes, des zones périurbaines, des campagnes, qui ne peut pas se passer d'un véhicule pour travailler, pour vivre, pour faire des courses, pour se soigner, pour étudier, tout simplement parce qu'elle n'a pas de moyens de substitution. Donc aujourd'hui, on est en train d'élargir ou d'agrandir la fracture territoriale et la fracture sociale. Il faut bien mesurer ça, et c'est un leurre de considérer qu'on peut substituer très rapidement aux vieilles voitures diesel, des voitures électriques, qui coûtent beaucoup plus cher, et qui ne remporte pas un grand succès commercial, contrairement à ce qu'on voudrait faire croire. On vend très peu de véhicules électriques, et ceux qui achètent des véhicules électriques aujourd'hui, c'est les entreprises avec des flottes, ou les particuliers qui sont plutôt aisés.
Mais alors, attendez, parce que moi, je n'aurais pas la même vision que vous. Je serais plus machiavélique sur ce qui se profile à l'horizon. Le gouvernement dit le diesel est aujourd'hui un carburant à bannir. Donc déjà, ceux qui ont aujourd'hui un véhicule diesel sont très pénalisés puisque le carburant diesel est vendu pratiquement plus cher que l'essence.
C'est-à-dire que donc au nom des nécessités écologiques et au nom de la réduction de la pollution, donc le gouvernement a décidé d'aligner la fiscalité des carburants diesel sur les carburants essence, et donc de retirer au diesel l'avantage fiscal qu'il avait depuis des décennies.
Ce qui est déjà une terrible nouvelle pour ces gens qui ont acheté un véhicule dont ils espéraient que son coût de fonctionnement allait être inférieur à un véhicule essence, sachant qu'ils l'avaient parfois payé plus cher qu'un véhicule essence.
Il y a ça. Ce qu'on aurait pu imaginer, c'est que la mise à niveau ne se ferait pas forcément par une augmentation des taxes. Or, c'est là où on voit bien que le gouvernement se moque un peu du monde. C'est-à-dire qu'ils, dans le même temps, ils ont continué à augmenter les taxes de l'essence, mais ils augmentent plus vite et plus rapidement les taxes portées sur le diesel. Il faut quand même bien se rendre compte qu'au cours des 3-4 dernières années, le poids des taxes dans le prix des carburants est passé de 50 à 70%. Donc, en fait, on sait bien que le gouvernement a besoin de rentrées fiscales importantes, que les dépenses publiques restent ce qu'elles sont, et les taxes sur les carburants ont toujours été, les taxes sur l'automobile en général, une vache à lait assez facile. Pourquoi ? Parce que c'est une dépense contrainte. On vient d'en parler. Il y a une grande partie de la population qui ne peut pas s'en passer, qui ne peut pas faire autrement. Donc, elle n'a pas le choix.
Et le deuxième étage de la fusée ou de l'autobus, comme vous voudrez, Eric Lézère. Donc, maintenant, on a une situation où tous les automobilistes qui ont des véhicules diesel vont se rendre compte que leur carburant leur coûte aussi cher que l'essence. Bref, que ça n'est plus intéressant d'acheter un véhicule diesel. Ensuite, il va falloir renouveler le parc. Et là, il y a des aides qui se profilent pour que les gens qui ont des véhicules diesel puissent acheter des véhicules essence. Ça va être une merveilleuse opération pour les constructeurs automobiles.
Alors, ça peut être une belle opération pour les constructeurs automobiles.
C'est là où je suis.
Si le changement est massif, mais ça paraît difficile.
Ben donc, c'est déjà ce à quoi on a assisté avec les offres de reprise. La prime à la casse a été un succès beaucoup plus important qu'attendu, ce qui veut dire que ça a été une très bonne affaire pour les constructeurs automobiles.
C'est vrai. Le problème là, c'est que les véhicules vers lesquels on essaye de pousser les consommateurs, c'est-à-dire les véhicules hybrides et les véhicules électriques, sont des véhicules relativement chers. Ce qu'il y a de très frappant, et ce sont des véhicules que les ménages qui possèdent les diesels les plus polluants et les plus anciens sont incapables de s'acheter. Donc il y a une vraie inadéquation, on va dire, entre la stratégie et entre les capacités des ménages et la réalité de l'offre qui leur est proposée. Et là, en plus, l'aberration va plus loin. Vous savez qu'il existe un bonus-malus en fonction des émissions de CO2 des véhicules. Et on se rend compte aujourd'hui, par exemple, que les véhicules les moins chers à essence sont extrêmement pénalisés par ce bonus-malus. Et qu'en revanche...
Pourquoi ?
Parce que, en fait, ils émettent... en matière de CO2, donc cette fois-ci, on n'est plus dans la pollution, mais on est dans... en tout cas, dans la pollution qui crée des problèmes pour la santé, mais on est dans le réchauffement climatique et donc les émissions de carbone. En fait, les véhicules à moteur essence émettent plus de CO2 que les véhicules diesel. Ça explique notamment, par exemple, que tous les ministres de l'écologie, de Dominique Voynet à Jean-Louis Bourleau, ont aussi participé à la promotion du diesel. Parce que, comme vous consommez moins de diesel, puisque le moteur est un peu plus performant, on va dire, sur le plan énergétique, il émet moins de CO2. Et donc, le paradoxe auquel on arrive aujourd'hui, c'est que les véhicules à essence, comme ils émettent plus de CO2, même les petits et les pas chers sont pénalisés par les systèmes de bonus-malus, qui viennent d'ailleurs d'être, que l'Assemblée vient encore de renforcer.
Alourdi.
Et que les véhicules, en termes de bonus-malus, les plus intéressants, sont des petits véhicules diesel, ce qui est une aberration, puisque c'est surtout ceux qu'il ne faudrait pas acheter, parce que les petits véhicules diesel ne correspondent pas à un usage qui utilise les avantages ou les relatifs avantages du moteur diesel.
Et alors, du coup, on est face à une situation qui est complètement invraisemblable, parce qu'on va favoriser la vente de véhicules qui participent au réchauffement climatique, ou bien on va favoriser la vente de véhicules électriques. Alors, je serais peut-être un peu moins pessimiste que vous sur les ventes d'électriques, mais ce qui est certain, c'est que les batteries, la manière dont on va produire l'électricité, ce sont des problèmes qui, à ce jour, ne sont évidemment pas résolus, Eric Lézère.
Alors, sur l'avantage écologique ou pour lutter contre le réchauffement climatique du moteur électrique, il y a deux éléments distincts. Le premier élément, c'est le coût de fabrication du véhicule électrique. Et là, il est nettement supérieur à celui du moteur thermique, notamment à cause des centaines de kilos de batterie, qui réclame beaucoup d'énergie pour être produit, qui réclame aussi des matériaux rares, des terres rares, du lithium, etc. Alors, on délocalise la pollution ou les émissions de CO2 liées à la production de ces batteries, puisqu'elles ne sont pas produites en France, elles sont plutôt produites en Chine, voire aux États-Unis, voire ailleurs. Mais néanmoins, il faut quand même savoir que pour rentabiliser en termes de CO2 un véhicule électrique, il faut faire sa dépense selon les véhicules, mais au moins 150 000 km ou 100 ou 150 000 km par rapport à un véhicule thermique. La seule chose, c'est que la pollution n'a pas lieu au même endroit. Donc si on veut éviter de polluer nos villes, on peut rouler avec de l'électrique en ville. Il faut savoir que le CO2 aura été émis en Chine. Après, il y a l'autre élément qui entre en ligne de compte dans la pollution, qui est la façon dont l'électricité est produite. Alors en France, on a quand même un vrai avantage, qui est que, comme on a justement eu un grand programme nucléaire et que 80% de notre énergie quasiment électrique provient du nucléaire, ça n'émet pas de CO2. Donc de ce côté-là...
Ah, ça, c'est un avantage de ce point de vue-là, mais il peut y avoir d'autres désavantages, Eric.
Alors après, il y a comment on recycle les déchets, mais là, on est dans une autre histoire.
Ou comment on évite une catastrophe nucléaire, mais ça, ce sera pour un autre Superfell. Merci beaucoup, Eric Leser. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Automobile France d'en haut contre France d'en bas ». C'est un ouvrage publié chez Erol et j'en recommande la lecture car on a une autre vision de l'automobile et puis on se rend compte aussi que l'automobile c'est peut-être le prochain Superfell parce que pour l'instant on ne réussit pas à s'en passer dans certaines zones en France.
On ne peut pas s'en passer dans certaines zones en France et il faut bien voir que, c'est peut-être un bien gros mot, notre civilisation, en tout cas notre société et notre économie s'est construite autour de l'automobile et qu'on ne s'en sépare pas comme ça du jour au lendemain.
Merci Eric Leser. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par Bruno Gagnère, Fontani à la technique et surtout dévasté par David Jakuboviez à la réalisation.
Superfell.